Bien, il est l'heure. Bonsoir à tous. Alors, au préalable, j'aimerais procéder à la présentation de nouveaux agents de notre collectivité. Tout d'abord, Monsieur David Granger, avec qui je vais demander de bien vouloir se lever. Merci. Le recrutement de Monsieur David Granger fait suite à la municipalisation de la cuisine centrale que nous avons décidé au printemps dernier en vue d'améliorer la qualité du service. Avant de nous rejoindre le 1er juillet, notre nouveau chef de cuisine exerçait des responsabilités équivalentes auprès de la communauté de communes Rhône-Lèze-Provence. C'est donc un professionnel aguerri qui a toutes les qualifications et les habilitations nécessaires, en particulier du point de vue diététique. Monsieur Granger dirige une équipe de 6 agents qui prépare chaque jour 400 repas, environ 100 de plus que l'an dernier, puisque la collectivité a signé une convention avec l'école Saint-Andéol et avec la Maman Merveille pour la préparation des repas. J'ajoute qu'en dépit de cette charge de travail supplémentaire, nous n'avons pour l'instant que des compliments de la part des parents d'élèves. Merci Monsieur Granger et bienvenue dans la collectivité. Je vous présente également Monsieur Emmanuel Castel, voilà, agent polyvalent des services techniques, qui nous a rejoint sur un contrat d'avenir depuis le 15 septembre. Il remplace à ce poste un agent qui a quitté la collectivité cet été. Bienvenue à vous, Monsieur Castel. Et je passe la parole à mon collègue Lionel Muret qui va vous présenter le nouveau policier municipal.
Oui, effectivement, nous avons la chance d'avoir comme nouveau gardien de police municipale Monsieur Gallet Guenaël, qui est âgé de 29 ans, ici présent. Donc, Monsieur Gallet est affecté de mai 2008 à juillet 2008 à l'école de gendarmerie de Tulle, 19. Sorti de l'école en août 2008 et jusqu'en juillet 2012, il est promu gendarme adjoint et finit son passage en gendarmerie au grade de maréchal des logis au peloton autoroutier de Vif-sur-Isère dans le 38. Après avoir obtenu son concours de gardien de police municipale en août 2012, il est affecté sur la commune de Septèmes-les-Vallons, dans les Bouches-du-Rhône, particulièrement dans les quartiers nord, jusqu'à août 2015. Le 1er septembre 2015, à sa demande, il rejoint la police municipale de Camaret-sur-Aigue en tant que gardien de police municipale. Nous sommes satisfaits qu'au bout d'un an et demi de mandat, encore une nouvelle promesse a abouti aujourd'hui. Nous le souhaitons la bienvenue.
Bien, nous procédons à la désignation d'un secrétaire de séance et je vous propose Monsieur Jean-Luc Dacosta, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous fais part des procurations que j'ai reçues. Elvire Théoki m'a donné procuration. Émilie Lagier va s'absenter pour raisons professionnelles en cours de séance et donnera procuration à Monsieur Antonio Muga. Fanny Biscara a donné procuration à Hervé Auriac. Véronique Chomel a donné procuration à Marlène Thibault. René Sauvera a donné procuration à Georges Point. Et Michel Payalonga a donné procuration à Jean-Paul Montagnier. Je vous informe aussi d'un certain nombre de remerciements que nous avons reçus. Monsieur et Madame Christian Beau et toute la famille ont été très touchés des marques de sympathie que nous leur avons témoignées lors du décès de Monsieur Bruscolini et nous expriment leurs plus vifs remerciements. Madame Monique Kilian et sa famille nous remercient de notre marque de sympathie lors du décès de son mari Horst Kilian. La famille Baïse nous remercie pour les marques de sympathie que nous leur avons manifestées lors du décès de Madame Annie Baïse Nécomte. La famille Théron nous fait part également de ses remerciements pour nos témoignages de sympathie manifestés lors du décès de Robert Théron. L'association Les Vieux Crampons de Camaret tient à nous remercier pour l'octroi d'une subvention de fonctionnement de 400 euros pour l'année 2015. Et enfin, Monsieur Claude Haut, conseiller départemental du canton de Vaison-la-Romaine, nous a écrit pour nous faire part de sa démission de son mandat de conseiller départemental. Mais j'en profite pour remercier le conseiller départemental qui s'apprête à nous octroyer une subvention de 1200 euros pour la baleine gourmande. J'en viens à l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, conseil municipal du 2 juillet 2015. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Maître Montagnier?
C'est présent.
D'accord, ben nous allons faire la rectification. Monsieur Mengui? Absolument, vous n'avez pas assisté au conseil municipal. Tout à fait. Voilà. Donc, qui est contre l'adoption de ce procès-verbal? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité de ceux qui ont voté. Et j'en viens au rapport numéro 1. Budget principal 2015, décision modificative numéro 1, rapporteur Madame Sylvette Gilles.
Conformément à l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative du budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales voté le 30 mars 2015, tout en maintenant l'équilibre budgétaire. La présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et de celles en cours. Vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2015, portant approbation du budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigue pour l'exercice 2015, vu les différentes réalisations effectuées en 2015 et celles en cours, vu l'avis de la commission des finances réunie le 18 septembre 2015, il est demandé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 du budget principal de la commune telle qu'annexée.
Bien, merci. Pour des explications plus détaillées, je passe la parole à Monsieur le Directeur Général des Services.
Bonsoir. Une décision modificative qui concerne les deux sections, section de fonctionnement et section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, on a une augmentation de crédit au niveau des recettes à hauteur de 18 694 euros. C'est dû à la prise en compte de recettes supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu au budget primitif du mois de mars. Ces recettes nous permettent de financer les augmentations de crédit au niveau des dépenses. Donc les augmentations en dépenses de fonctionnement sont liées à un complément concernant la contribution au FPIC, le fonds de péréquation intercommunale, puisqu'il avait été budgété 50 000 euros et en fait la commune doit 51 045 euros, donc on ajoute 1 045 euros. Il y a les subventions aux associations qui vont être votées qui vont être proposées au vote sur le dossier numéro 2. Et il y a également un certain nombre d'opérations qui sont demandées par le Trésor public et qui concernent des annulations de titres, des titres irrécouvrables, des titres et des créances irrécouvrables, pour une somme de 18 694,65 euros qui sont donc qui correspondent aux recettes supplémentaires et donc la section, la décision modificative est équilibrée en fonctionnement. Concernant la section d'investissement, donc au niveau des recettes, nous avons des recettes supplémentaires liées notamment à des subventions obtenues par la commune depuis le vote du budget primitif. Il y a notamment 102 180 euros qui sont attribués au financement de la phase finale du tour de ville par la région PACA dans le cadre du PASS qui lie la région avec la CCOP et la commune de Camaret. Il y a également 52 500 euros attribué par l'État sur la DETR également pour l'opération du tour de ville. Et il y a une opération d'ordre qui est liée à un changement qui nous est demandé par le trésor public concernant la gestion des poteaux incendies. Donc ce qui fait qu'en section, en recette d'investissement, on a une augmentation de 170 000 euros. On retrouve en dépenses. Alors en dépenses, il y a des mouvements qui sont à hauteur de 639 859 euros en nouveaux crédits et une diminution de crédit de 469 265 euros. La diminution de crédit plus les recettes nouvelles équilibre la section d'investissement à hauteur de 639 859 euros. Alors, les diminutions de crédit 469 000 euros sont effectuées par des transferts entre chapitres ou entre comptes à des reliquats d'opérations qui ont été réalisées et qui ont coûté moins cher que ce qui avait été prévu, à la diminution de lignes pour ajustement en tenant compte du réel. Par exemple, pour les opérations façades, il avait été budgété 8 000 euros. On sait qu'on aura une dépense d'à peu près 4 000 euros d'ici la fin de l'année, donc on retire 4 000 euros sur les opérations façades, puisque le temps que les demandes soient instruites, etc., on sait qu'une demande qui sera déposée aujourd'hui, elle ne pourra être budgétée et financée qu'en 2016. Il y a le report sur 2016 d'opérations qui sont en cours, toujours en cours au niveau de la phase étude. Donc les travaux ne seront pas engagés sur 2015, donc les opérations sont reportées, seront budgétées au budget 2016 pour des raisons de calendrier. Et puis donc financement également de ces dépenses, comme je le disais, par les subventions qui arrivent en recettes. Les augmentations de crédit, c'est notamment l'opération de la phase finale du tour de ville, puisque le calendrier qui a été négocié, vu avec les entreprises suite au marché, au MAPA qui a été lancé, vont permettre d'avancer le calendrier. Donc en fait, la municipalité a souhaité engager la totalité des travaux de la phase finale du tour de ville, c'est-à-dire la tranche ferme, cours du midi, la tranche conditionnelle 1, le carrefour, et la tranche conditionnelle 2, le cours du Levant et le cours du Nord, sur l'année 2015. Donc on engage la totalité des travaux sur 2015, donc c'est une augmentation de crédit. Le budget prévisionnel qui avait été prévu pour l'extension de l'école maternelle sur la maison des associations a été affiné, puisque l'étude de l'architecte a abouti et donc on a un budget beaucoup plus précis. Donc là, on adapte le budget. Le local pour le foot également. Et puis on a le marché qui concerne le traitement des eaux pluviales sur le tronçon, donc qui concerne le secteur de la rue Alphonse Daudet qui est perpendiculaire à la voie verte. Le traitement des eaux pluviales au niveau de la rue Jean-Henri Fabre, carrefour de la chapelle du Cœur de Marie, et puis également la part de la commune sur les travaux qui concernent le chemin de la Dame, pour lequel l'intercommunalité est intervenue, et donc nous avons engagé les travaux de la part communale pour une somme de 126 691 euros hors taxes. Voilà, donc ce qui fait que la section d'investissement est elle aussi équilibrée.
Bien, y a-t-il des questions ?
Juste une remarque, j'ai pas pu participer à la
commission. Oui, je disais, donc j'ai pas pu participer à la commission des finances, donc le 18, donc j'avais été d'abord surpris de voir la date du 18. En fait, j'ai pas reçu, je me suis rapproché de Cyril Pesson, les convocations ont été envoyées, mais moi je n'ai pas reçu donc cette convocation, ce qui fait que j'ai pas pu ni être présent, ni m'excuser, ni me faire remplacer. Voilà, je voulais le préciser.
Écoutez, j'en prends bonne note et j'ai vérifié que la convocation vous avait bel et bien été envoyée.
Non, mais je l'avais vérifié également.
Merci. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques. S'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Donc le groupe socialiste. Qui s'abstient? Le groupe de Maître Montagnier. Adopté à la majorité, je vous en remercie. Rapport numéro 2. Attribution de subventions aux associations. Rapporteur Jean-Michel Marlot.
Plusieurs demandes de subventions ont été transmises à la commune après le vote du budget principal 2015. L'Avenir sportif Camaretois, les Restos du Cœur, l'ADIL, Planète Ado, le Teen Prévoit et l'association Mot pour Mot sont des associations locales ou ayant des actions sur la commune de Camaret-sur-Aigue. Vu le budget communal, vu l'avis de la commission des finances le 18 septembre 2015, il est demandé au conseil municipal d'accorder le versement des subventions suivantes pour un total de 6 264 euros. Avenir sportif Camaretois, complément fonctionnement 2 500 euros. Les Restos du Cœur, 1 000 euros. L'ADIL, 664 euros. Planète Ado, 500 euros. Team Trévois, 1 000 euros. Association Mot pour Mot, 600 euros. Les sommes inhérentes à cette dépense seront mandatées par les crédits prévus à l'article budgétaire 6574 de la section de fonctionnement du budget principal 2015.
Y a-t-il des questions? Monsieur Bengui.
Concernant l'avenir sportif du Camaretois, il est marqué complément de fonctionnement 2500 euros. Qu'est-ce qui justifie cette subvention complémentaire dans le cadre du fonctionnement, je dirais, c'est pas un événement exceptionnel, c'est pas une manifestation exceptionnnelle. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation dans la mesure où l'année dernière déjà, enfin on a voté déjà, je crois, une enveloppe de 25 000 euros. Est-ce que vous pourriez nous expliquer?
En fait, le vote de cette subvention de 2500 euros découle tout simplement de la convention d'objectifs et de moyens que nous avons votée, à l'unanimité d'ailleurs, le 30 mars 2015. Voilà, il est prévu dans cette convention qu'il y aura une somme de 2500 euros qui sera versée donc au mois de septembre en fonction de la réception par les services municipaux d'un bilan financier et comptable de l'activité de l'ASC. Donc nous avons bel et bien reçu ce bilan, il est irréprochable. Il y a aussi 2500 euros qui sont accordés, si je puis m'exprimer ainsi, en nature. C'est-à-dire que nous avons demandé à l'ASC de participer à l'animation de la commune en tenant des buvettes, en particulier lors de la fête de la musique. Et il y en aura aussi une qui sera tenue par l'ASC lors du marché de Noël, ce qui va éviter à la commune de verser ces fameux 2500 euros, dans la mesure où nous espérons bien que les dites buvettes vont rapporter un bénéfice de 2500 euros. Voilà en gros comment les choses se passent en ce qui concerne ces 25 000 euros. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vous en remercie.
Moi, il me semblait que donc dans les 25 000 étaient prévus justement pour le fonctionnement global, quoi, y compris les activités annexes, parce qu'on est quand même sur une augmentation assez conséquente dans la mesure où je crois qu'on était passé de 20 000 à 25 000, là on est à 27 500.
On est passé de 20 000 à 25 000 parce que l'ASC a accédé en PHA. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, écoutez, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Arcusé. Qui vote pour? Adopté, je vous en remercie. Rapport numéro 3. Marché de Noël, instauration de tarifs pour les emplacements. Rapporteur, en l'absence d'Elvire Théocchi, Jean-François Leroy.
marché de Noël, instauration de tarifs pour les emplacements. Afin de permettre une meilleure organisation du marché de Noël, il est proposé d'instituer des tarifs pour les emplacements des forains. Attendu que le coût de la manifestation est entièrement pris en compte par le budget communal, les tarifs sont proposés de la manière suivante. Dimension des emplacements, avec ou sans électricité. Pour 2,20 m, le tarif camaretois est de 2 €. Pour le tarif extérieur est de 10 €. Pour 4,40 m, le tarif camaretois est de 4 €. Pour le tarif extérieur est de 15 €. Une partie du marché de Noël sera dédiée aux professionnels des métiers de la bouche et de la gastronomie, disciples d'Escoffier. Le tarif des emplacements qui leur seront proposés s'élève à 70 €. Le paiement sera demandé aux exposants au même moment que le dépôt du dossier d'inscription par chèque libellé à l'ordre du Trésor public. La caution de 50 € mise en place par délibération en date du 29 juillet 2010 reste en vigueur dans les mêmes conditions. Vu de l'avis de la Commission des finances en date du 18 septembre 2015, il est demandé au Conseil municipal d'accepter les tarifs des emplacements pour le marché Noël comme suit. Selon la dimension des emplacements, avec ou sans électricité, pour 2,20 m, le tarif camaretois est de 2 €, tarif extérieur 10 €. Pour 4,40 m, le tarif camaretois est de 4 €, tarif extérieur 15 €. D'accepter de fixer le tarif des emplacements dédiés aux professionnels de la bouche et de la gastronomie à 70 € par disciple d'Escoffier.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Mengui.
Simplement pour dire qu'on votera contre cette délibération dans la mesure où on trouve dommage que ce marché de Noël qui était accessible gratuitement devienne payant. Quoi. Donc quand on voit le prix pour les camaretois 2 et 4 euros, je trouve que c'est dommage. Donc je trouve que on aurait pu le laisser accessible gratuitement. D'ailleurs, juste une remarque, qu'est-ce qu'il en est des associations qui participent d'ailleurs pour certaines au marché de Noël? Est-ce qu'elles vont payer et à quel tarif?
Elles vont payer le tarif camaretois, qui ne me paraît pas complètement insurmontable. 2 et 4 euros, c'est pas...
Non, justement.
À mon avis, c'est pas...
C'est bien, je suis d'accord avec vous. C'est 4 euros, franchement.
C'est pas énorme. Ouais. Mais disons qu'on veut donner un nouveau visage à cette manifestation. On veut tenter de lui donner un lustre supplémentaire, en particulier avec cette année la participation des disciples d'Escoffier. Un accent qui sera davantage mis sur justement la gastronomie. Donc on va essayer d'un petit peu élever le niveau. C'est la raison pour laquelle on en a profité aussi pour augmenter un petit peu les tarifs, qui quand même ne sont pas du tout prohibitifs, en particulier pour les camaretois. Mais bon, vous savez que les choses vont de plus en plus mal sur le plan financier. Hein, nous sommes en période vraiment difficile. Et donc, on essaye quand même de faire attention à tout maintenant. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, écoutez, je mets aux voix. Qui est contre? Le groupe socialiste. Qui s'abstient? Monsieur Point. Qui vote pour? Adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 4, suppression de la régie d'avance de la bibliothèque municipale, rapporteur Jean-François Leroy.
Dossier numéro 4, suppression de la régie d'avance de la bibliothèque municipale. Monsieur le maire rappelle que par délibération du conseil municipal du 22 avril 2010, une régie de recettes et d'avances pour la bibliothèque municipale a été instituée. Cette régie est destinée à l'encaissement des droits d'inscription et de reprographie de documents. Le montant de l'avance à octroyer au régisseur d'avance est fixé à 500 € par an. Or, depuis 2010, la régie d'avance n'a pas été utilisée. Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18, vu le décret numéro 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, vu le décret numéro 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes d'avance et de recettes et d'avance des collectivités territoriales et de leur établissement public, modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles. Vu le décret numéro 2008-227 du 5 mars 2008, abrogeant et remplaçant le décret numéro 66-850 du 15 novembre 1966, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. Vu l'instruction ministérielle codificatrice numéro 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes d'avance et de recettes et d'avance des collectivités territoriales et de leurs établissements publics territoriaux. Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avance et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents. Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes d'avance et de recettes d'avance des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, vu la délibération du 22 avril 2010 autorisant la création d'une régie de recettes et d'avance pour la bibliothèque, fixant les tarifs de droit et de reprographie et d'inscription ainsi que le montant de l'avance octroyée aux régisseurs chaque année, vu l'avis de la Commission des finances en date du 18 septembre 2015, il est demandé au Conseil municipal de procéder à la suppression de la régie d'avance de la bibliothèque qui s'élève à un montant annuel de 500 euros. De dire que la suppression de cette régie prendra effet une fois rendue exécutoire la délibération.
On a des questions sur cette délibération purement anecdotique. Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 5. Demande de subvention dans le cadre de la manifestation Camaret Fête le Vin, prévue le samedi 21 novembre 2015. Rapporteur Jean-François Leroy.
Dossier numéro 5. Demande de subvention dans le cadre de la manifestation Camaret Fête le Vin prévue le samedi 21 novembre 2015. La commune de Camaret-sur-Aigle organise en partenariat avec l'UCAV et les jeunes agriculteurs du Vaucluse la seconde édition de la manifestation Camaret Fête le Vin. L'édition 2014 avait rencontré un fort succès pour une première permettant une animation du cœur de ville et une mise en valeur de nos produits du terroir, notamment viticole. En 2015, cette fête sera couplée avec l'inauguration des illuminations de Noël. Dans cette perspective, il est proposé de solliciter une subvention auprès du Crédit Agricole, de Groupama et de la communauté de communes Aigues ou Vaise en Provence, au titre de l'animation intercommunale et de la mise en valeur d'une activité économique locale. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, considérant que cet événement a une portée intercommunale, une subvention à la CCAOP sera demandée. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 septembre 2015, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le budget prévisionnel de la manifestation. En dépenses, les animations s'élèvent à 1 600 euros. En dépenses, les repas s'élèvent à 2 500 euros, TTC, pardon. En communication, les dépenses s'élèvent à 500 euros. Diverses dépenses s'élèvent à 200 euros, un total de dépenses de TTC 4 800 euros. En recettes, commune de Camaret-sur-Aigle, 1 000 euros. Sponsor, le Crédit Agricole, 150 euros. Pardon. Groupama, 150 euros. Vente de tickets repas, 2 500 euros. Subvention CCAOP, 1 000 euros, ce qui mène à un équilibre de 4 800 euros. Autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de la CCAOP, du Crédit Agricole et de Groupama. Il est précisé que ces recettes seront encaissées sur le compte budgétaire 7 478 sur émission d'un titre de recette.
Y a-t-il des questions ? Bien, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, et j'espère vous y voir nombreux. Dossier numéro 6. Construction d'un local de rencontre et de convivialité pour le complexe sportif du football. Demande de subvention, rapporteur Jean-Michel Marlot.
La municipalité de Camaret-sur-Aigle, dans le cadre de sa politique et soutien et de valorisation du tissu associatif et sportif local, souhaite mettre à disposition des associations des équipements de qualité. Afin d'améliorer les fonctionnements et le confort d'usage du stade de football, il est proposé de procéder à la création d'un nouveau bâtiment. Les bâtiments existants sont assez vétustes et ne permettent plus au club et à ses 250 licenciés de pouvoir évaluer et développer la pratique du football dans des conditions optimales. Pour faire face à l'accroissement des effectifs du club, aux spécificités d'un fonctionnement d'un club pilote en matière de formation des jeunes footballeurs, et après étude des besoins du club réalisée auprès des dirigeants de l'avenir sportif camarétois, la commune envisage la création d'un bâtiment polyvé permettant d'accueillir réunions, séances de formation, retransmissions de matchs, rassemblements conviviaux, goûter pour les jeunes. Ce projet entend s'inscrire dans la perspective du programme Horizon Bleu 2016, développé par la Fédération française de football et de la Ligue de football amateur à l'occasion de l'Euro 2016. Cet espace de convivialité doit tenir compte du classement du club et être réalisé aux normes exigées par un classement de PHA, cinquième catégorie. Il servira également dans le cadre des temps d'activité périscolaire animés par l'ASC en coordination avec les services enfance-jeunesse de la municipalité. Une première étude sommaire conviée au COE de Vaucluse prévoyait un montant estimatif des travaux s'élevant à 228 000 euros hors taxe, soit 273 600 euros. L'avant-projet définitif établi par le maître d'œuvre Espacio Ingénierie a permis de préciser le montant estimatif des travaux au vu notamment des normes de sécurité et d'accessibilité à 277 000 euros sans acheter, soit 332 520 TTC. Le programme Horizon Bleu 2016 prévoit une aide de 50% du montant acheté du projet plafonné à 40 000 euros. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le plan de financement prévisionnel des travaux et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter des subventions auprès des partenaires institutionnels ci-dessous. Le coût prévisionnel des travaux hors taxe, 277 100 euros. Subvention notifiée, réserve parlementaire crédit exceptionnel du ministre de l'Intérieur, 40 000 euros. Subvention sollicitée, Fédération française de football, Horizon Bleu 2016, 40 000 euros. Commune de Camaret-sur-Aigle, 197 000 euros. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessous. Coût prévisionnel des travaux hors taxe, 277 100 euros. Subvention notifiée, réserve parlementaire crédit exceptionnel du ministère de l'Intérieur, 40 000 euros. Subvention sollicitée, Fédération française de football Horizon Bleu, 2016, 40 000 euros. Commune de Camaret-sur-Aigle, 197 000 euros. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de la Fédération française de football dans le cadre du programme Horizon Bleu 2016, à hauteur de 50% du montant total hors taxe des travaux et plafonné à 40 000 euros. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document en ce sens.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Arcuzet.
Donc c'est pas une question, c'est juste une remarque. En moins de 2 ans, on est passé de 110 000 à plus de 333 000.
Alors non, pas du tout, puisque comme cela est dit dans la... dans le corps de la délibération, la première étude sommaire qui avait été confiée au CIE de Vaucluse prévoyait un montant estimatif des travaux s'élevant à 228 000 euros.
Monsieur le maire, dans le budget prévisionnel, vous aviez prévisionné 110 000 euros.
C'était dans le cadre, mais ça on en avait déjà parlé, c'était dans le cadre d'un budget prévisionnel. Comme je l'avais déjà dit, je le redis, une prévision, cela s'affine avec le temps, et notamment en fonction des besoins qui sont apparus, des nécessités, notamment en matière d'accessibilité handicapée, bref, de tout un tas de choses. Voilà, mais nous sommes tout à fait dans les prix du marché, dans les prix de ce qui se fait pour le même genre d'équipement ailleurs. D'autres questions? Monsieur Mengui.
Une remarque, c'est que sur le précédent,
je dirais, plan de financement, il y avait 124 000 euros de subventions qui étaient espérées. Et donc, aujourd'hui, a priori, on n'est plus qu'à 80 000 euros.
Donc, oui, très très bonne remarque.
Fait que si on associe le coût supplémentaire prévisionnel plus la baisse des subventions espérées, effectivement, on arrive à 197 000 euros. Et bon, vous l'avez déjà dit, moi je pense qu'on n'a pas fini, on n'a pas mis encore un coup de pioche, et je pense qu'on risque d'avoir encore des surprises. Donc, quand on disait qu'on serait pas loin de 300 000 euros, je crains qu'on s'en rapproche. Hein.
Je vous rappelle que nous sommes toujours dans une prévision maximale. C'est bien un montant maximal de travaux qui est indiqué ici. Nous espérons bien, une fois que les appels d'offres seront lancés, arriver à une somme bien moindre, comme d'ailleurs cela a été le cas pour le tour de ville. Et alors, en ce qui concerne les subventions escomptées, effectivement, vous avez fait une bonne remarque. En fait, nous sommes aussi adressés, et cela est tout à fait naturel, au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui nous a répondu que tous ces crédits, d'ici la fin de l'année 2015, étaient consacrés à cette bonne ville de Marseille, qui, paraît-il, a bien d'autres problèmes que les nôtres, et donc tous les crédits du ministère de la Jeunesse et des Sports, dans ce cadre-là, sont affectés à Marseille. Voilà. Il n'y a rien pour les communes rurales comme la nôtre. Cela me permet de le préciser, de l'indiquer à tous les administrés de Camaré. Y a-t-il d'autres questions?
Position, on avait voté contre en 2014, vous comprendrez qu'on votera contre en 2015.
J'ai bien noté le vote contre du groupe socialiste. Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Dossier numéro 7, acquisition d'un gilet pare-balles pour la police municipale, demande de subvention au titre du FIPD, rapporteur Lionel Muret.
Dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme, le ministère de l'Intérieur prévoit une dotation complémentaire en 2015 au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, FIPD, pour l'achat de gilets pare-balles pour équiper les policiers municipaux. La commune de Camaré-sur-Aigue avait déjà procédé à l'achat de 3 gilets pour équiper ses policiers municipaux déjà en fonction. Dans le cadre de ce dispositif et à l'occasion du recrutement d'un 4e agent, il est proposé l'achat d'un gilet supplémentaire pour un coût global hors taxe de 526,06 €. La participation de l'État est fixée à 250 € par gilet. Il est proposé d'approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessous. Dépenses hors taxe 526,06 €. Recettes, commune de Camaré, 276,06 €. Pour un total de 526,06 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter cette subvention au titre du FIPD et à signer toutes les pièces nécessaires afférentes à ce dossier.
Y a-t-il a-t-il des questions? J'ajoute que pas plus tard qu'aujourd'hui, dans la commune de Valréas, des énergumènes ont sorti des armes automatiques et ont tiré en l'air au cri d'Allah Akbar. Heureusement, ils ont été appréhendés par la gendarmerie tout de suite après. Comme quoi, un gilet pare-balles, ce n'est pas du luxe. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 8. Procédure d'appel d'offres pour la phase finale des travaux du tour de ville. Attribution du marché. Rapporteur Sylvette Gilles.
La municipalité a pour projet de finaliser le programme de réfection du tour de ville engagé depuis 2011. Une étude approfondie a été lancée concernant la phase finale des travaux et les principes d'aménagement s'inscrivant dans une opération globale de requalification des espaces publics dans le centre. Les dernières tranches de travaux du tour de ville consisteront dans la reprise du réseau d'eau pluviale et de la voirie très dégradée sur le cours du Midi, fin de la partie est, le cours du Levant et le cours du Nord, avec poursuite d'une zone 30 km/h pour sécuriser les déplacements doux. La création d'une circulation piétonne réglementaire qui offrira aux personnes à mobilité réduite l'espace libre nécessaire à leur déplacement. Le maintien de places de stationnement. L'aménagement de l'intersection Tour de Ville rue Marie Curie. L'implantation de végétaux en dehors des circulations piétonnes. Et l'éclairage approprié et réglementaire. Eu égard au coût estimatif de l'opération et afin d'assurer le respect des principes de libre accès à la commande publique et de mise en concurrence des entreprises, la commune a utilisé la procédure d'appel d'offres ouvert telle que définie à l'article 57 du Code des marchés publics pour la désignation des entreprises susceptibles de réaliser ces travaux. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21, vu le Code des marchés publics, notamment les articles 28 et 40, vu le budget primitif 2015 de la commune, vu la délibération 2015-44 du 21 mai 2015 autorisant Monsieur le maire à mettre en œuvre la procédure d'appel d'offres pour la phase finale des travaux du tour de ville pour un montant plafond déterminé, le marché à procédure adaptée MAPA 2015-03, réaménagement du tour de ville, est divisé en 3 lots. La date limite de remise des offres était fixée au 12 juin 2015. L'ouverture des plis s'est déroulée le 15 juin 2015. L'analyse technique réalisée par le bureau d'études Caprim a été présentée en commission d'appel d'offres le 25 juin 2015. Des précisions ayant été demandées à la demande de la commission d'appel d'offres concernant le lot numéro 1, la commission s'est de nouveau réunie le 3 juillet 2015 pour attribuer le lot numéro 1. Au final, il ressort que les offres suivantes ont été retenues par avis de la commission d'appel d'offres. Lot numéro 1, terrassement, chaussée, bordure, eau pluviale, société Eiffage, pour un montant total de 264 813,94 euros hors taxe. Lot numéro 2, trottoir et mobilier urbain, société Sol, pour un montant total de 162 254,50 euros hors taxe. Lot numéro 3, espace vert et plantation, société CEP Jardin, pour un montant total de 23 492,50 euros hors taxe. Conformément au Code des marchés publics et au Code général des collectivités territoriales, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à attribuer chacun des lots du marché à procédure adaptée, MAPA 2015-03, réaménagement du tour de ville, et à signer tout document afférent à l'exécution de ce marché à destination des candidats retenus. Lot numéro 1, société Eiffage, pour un montant total de 264 813,94 euros hors taxe. Lot numéro 2, société Sol, pour un montant total de 162 254,50 euros hors taxe. Lot numéro 3, société CEP Jardin, pour un montant total de 23 492,50 euros hors taxe. Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 23, immobilisation en cours, article 23.15, installation matérielle et outillage technique du budget communal.
Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Bon, ben, tout simplement un petit commentaire. Pour l'instant, les travaux se passent bien. Les délais sont tenus. Nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures. On aurait pu en trouver. On aurait pu avoir des problèmes, en particulier lorsque nous avons ouvert le canal Alcyon. Ça n'a pas été le cas. Et donc, nous comptons toujours terminer les travaux de façon définitive au printemps prochain. Donc, s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 9. Litige travaux de revêtement muraux de la cuisine centrale, proposition transactionnelle. En 2009, la commune de Camaret décidait d'entreprendre les travaux de réhabilitation de la cuisine centrale communale. Pour ce faire, elle signait un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des prestations d'économie de la construction avec la société OmniPlus en date des 15 octobre 2009 et 1er juin 2010 pour des montants de 4 186 € TTC. Ces travaux devaient s'effectuer en deux tranches, à la fin de l'année 2009 et à la fin de l'année 2010. La société JPN Tradition réalisait les travaux de maçonnerie et pose de faïence. Les travaux étaient exécutés pour la première tranche par les entreprises attributaires du 21 au 30 décembre 2009, date à laquelle un PV de réception était signé par toutes les parties. La deuxième tranche de travaux débutait le 20 décembre 2010 pour finir le 30 décembre 2010, date à laquelle un PV de réception était également signé par toutes les parties. Un an plus tard, le 19 décembre 2011, une réunion était organisée à l'initiative de la commune pour constater l'existence de désordres sur les faïences murales de la cuisine centrale. Les parties n'ayant pas réussi à s'entendre, la commune de Camaret sollicitait du juge des référés près du tribunal administratif de Nîmes l'instauration d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 16 mai 2013, le juge des référés près du tribunal étendait les opérations d'expertise à la SARL JPN Tradition, représentée par Maître Roussel, ainsi qu'à sa compagnie d'assurance. L'expert judiciaire déposait son rapport le 2 septembre 2013, au terme duquel un partage de responsabilités non déterminé précisément était retenu entre la commune de Camaret, la société JPN Tradition et la société OmniPlus. C'est dans ces conditions que, par une requête enregistrée au sein du tribunal administratif de Nîmes le 31 décembre 2013, la commune de Camaret sollicitait du tribunal qui condamne solidairement la SARL JPN Tradition, représentée par Maître Roussel, et la SARL OmniPlus. Avant que le tribunal ne fixe la date de clôture d'instruction de cette affaire, les parties ont pensé qu'elles pouvaient trouver une solution amiable à leur contentieux. Plusieurs entretiens ont eu lieu postérieurement, au terme desquels les parties se sont rapprochées et ont convenu, après avoir pris tout l'avis nécessaire à l'expression de leur libre consentement, de faire des concessions réciproques et d'aboutir à un accord transactionnel irrévocable et définitif au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Par la signature d'une convention, la commune de Camaret s'engage à titre de concession transactionnelle à accepter que la SARL OmniPlus lui verse à titre transactionnel forfaitaire global et définitif la somme de 5 000 €. Cette somme est versée le jour de la signature de la convention par chèque émis à l'ordre de la commune de Camaret et remis à Maître Monroux. La commune de Camaret en donne bonne et valable quittance par la signature de la convention. La commune de Camaret accepte de se désister de toutes les actions de l'instance actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nîmes afférente à l'exécution des deux contrats publics d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en date des 15 octobre 2009 et 1er juin 2010 et de renoncer à toute instance et action à l'encontre de la SARL OmniPlus à quelque titre que ce soit lié à l'exécution des deux contrats publics. Groupama, pour sa part, versera à la commune de Camaret la somme de 9 022 €, 60% des travaux définitifs, et prendra en charge 100% des frais d'expertise, évalués à 4 749 €. La prise en charge globale s'élèvera donc à 13 771 € pour Groupama. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes du protocole transactionnel, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit protocole et toutes pièces afférentes à ce dossier. Voilà, c'est une affaire ancienne qui se règle. Je pense de manière tout à fait favorable pour les intérêts de la commune. Et mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention de Madame Thibault et de Monsieur Arcuzet. Qui est pour ? Et de Monsieur Mengui, excusez-moi. Alors, dossier numéro 10, structure multi-accueil petite enfance, avenant à la convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale de Vaucluse, rapporteur Émilie Lagier.
Par délibération du 19 février 2015, le Conseil municipal a accepté de renouveler la convention d'objectifs et de financement qui lie la caisse d'allocation familiale de Vaucluse à la structure multi-accueil petite enfance de Camaret-sur-Aigle, établissement d'accueil de jeunes enfants de 0 à 6 ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, afin de bénéficier notamment du versement annuel de la prestation de service. Ladite convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service. Établissement d'accueil de jeunes enfants de 0 à 6 ans pour la structure multi-accueil petite enfance de Camaret-sur-Aigle. Il convient à présent d'accepter les termes de l'avenant à la convention d'objectifs et de financement afin de définir les conditions d'accès au portail CAF partenaire, d'usage de ce dernier et les obligations qui s'y rattachent pour les gestionnaires d'établissements d'accueil du jeunes enfants conventionnés, prestation de service unique, PSU, avec la CAF. Le portail CAF partenaire est un nouvel outil qui permet la télédéclaration des données d'activité et de financement prévisionnelles, actualisées et réelles, nécessaires au traitement des droits PSU. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'avenant à la convention d'objectifs et de financement qui lie la caisse d'allocation familiale de Vaucluse à la structure multi-accueil petite enfance de Camaret-sur-Aigle pour l'accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans, définissant les conditions d'accès et d'usage du portail CAF partenaire, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant ainsi que tout document y afférent.
Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 11, versement de la part communale de l'indemnité représentative de logement d'un instituteur non logé par la commune. Rapporteur Jean-François Leroy.
Versement de la part communale de l'indemnité représentative de logement d'un instituteur non logé par la commune. Vu l'article R212-9 du Code de l'éducation, en application du principe posé par les lois des 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1887, les communes sont tenues de fournir un logement aux instituteurs. À défaut, ces derniers bénéficient d'une indemnité représentative de logement, IRL. Vu l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 fixant pour l'année 2014 le montant de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs non logés à 2297,45 €, considérant que le montant de la dotation spéciale aux instituteurs a été fixé par le comité des finances locales à 2808 €, considérant que l'indemnité de logement de base fixée à 2297,45 € est prise en charge par l'État, et que les instituteurs bénéficiant de la majoration de 25% percevront au titre de l'année 2014 une indemnité de logement de 2871,81 €, imposant une contribution communale annuelle de 63,81 € par instituteur bénéficiant de cette majoration. Considérant qu'il s'agit d'une dépense communale obligatoire, considérant que la commune de Camaret-sur-Aigle ne compte qu'un instituteur ayant droit, vu le budget de la commune pour l'année 2015, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à procéder au mandatement de la part communale de l'indemnité représentative de logement aux instituteurs concernés pour un montant total de 63,81 €. Les sommes correspondantes seront imputées à l'article budgétaire 6556 de la section de fonctionnement du budget principal de la commune. Merci.
Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 12. Création d'un poste dans le cadre du dispositif des emplois d'avenir. Rapporteur Antonio Muga.
Le maire expose aux membres de l'Assemblée le dispositif des emplois à venir récemment mis en place visant à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l'attribution d'une aide de l'État liée à l'engagement de la collectivité en matière d'accompagnement du jeune, contenu du poste, tutorat, formation. Les jeunes sont recrutés dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations de charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi. La durée hebdomadaire afférente à l'emploi est, sauf dérogation particulière, de 35 heures par semaine. La durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC. Vu le budget de la commune, considérant la politique sociale de la commune, oui, la proposition de Monsieur le maire de créer un emploi d'avenir dans les conditions suivantes. Profil. Un poste d'agent polyvalent des services techniques, spécialité espace vert. Donc la fiche de poste vous est jointe. Durée de contrat, 36 mois. Durée hebdomadaire de travail, 35 heures. Rémunération, SMIC horaire. Et de l'autoriser à intervenir à la signature de la convention avec la mission locale et des contrats de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. Il est demandé au conseil municipal de créer un poste dans le cadre du dispositif emploi à venir dans les conditions suivantes. Profil, un poste d'agent polyvalent des services techniques, spécialité espace vert. Durée des contrats, 36 mois. Durée hebdomadaire de travail, 35 heures. Rémunération SMIC horaire. D'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement.
Des questions ? Monsieur Mengui. Prenez le micro, s'il vous plaît.
Oui, juste une précision. En principe, les emplois d'avenir comme ça, ils ont un tuteur, ces jeunes gens.
Oui.
Voilà, donc c'est le cas pour. Et on peut savoir qui sera le tuteur ?
C'est Sandrine Follet.
Sandrine Follet. Donc vous n'avez pas choisi un tuteur de la filière technique ?
Non.
Ok. Et je crois qu'il y avait eu une précédente embauche dans le cadre des dispositifs d'avenir. Est-ce qu'il y a eu des tuteurs également ?
Oui, c'est Frédéric
Cour. Ok, d'accord.
Donc sur les trois. Les trois, c'est Frédéric Cour. Le maxima qu'il peut avoir comme tutorat, c'est 3. Donc on a repris une autre personne d'un autre service.
Merci. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 13. Création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité service jeunesse. Rapporteur Antonio Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, considérant que ces agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe, oui, la proposition de Monsieur le maire de créer des postes d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer les postes suivants pour un accroissement saisonnier d'activité. 5 postes d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe à temps complet pour le service jeunesse. D'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 12 du budget principal de la commune.
Y Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 14. Avis sur la demande d'autorisation d'exploiter de la société Delta Déchets, rapporteur Hervé Auriac.
La société Grandjean et Fils Delta Déchets, représentée par son président, M. Pierre Grandjean, a déposé pour l'installation de stockage de déchets non dangereux du Coudoulet à Orange une demande d'autorisation d'exploiter concernant la poursuite de la réception de matériaux d'exploitation alternatifs et l'actualisation des conditions d'exploitation de l'installation. Ce dossier a été déclaré complet et régulier par le rapport de l'inspecteur de l'environnement du 16 avril 2015. Par arrêté préfectoral en date du 18-6-2015, une enquête publique a été prescrite du 7 septembre 2015 au 9 octobre 2015 en mairie d'Orange. Conformément à l'article R512-20 du Code de l'environnement, le conseil municipal doit donner son avis sur cette demande d'autorisation. Il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis sur ce dossier.
Alors donc, juste pour préciser les choses, nous sommes amenés à délibérer donc sur cette demande d'autorisation, tout simplement parce que l'entreprise Grandjean est implantée sur la commune d'Orange et que Camaret est une commune limitrophe à Orange. Donc toutes les communes limitrophes doivent donner un avis qui est joint au dossier d'autorisation. Alors, ceci étant dit, on n'est pas vraiment impacté par cette entreprise, le traitement des déchets. Je pense que vous savez tous où elle se trouve. Cela dit, moi je propose tout de même d'émettre un avis défavorable dans la mesure où sur le principe de l'accumulation de ces déchets en pleine zone d'activité me paraît pas du tout opportun. Donc je propose d'émettre un avis défavorable, mais vous avez la parole si vous avez d'autres idées, par exemple Monsieur Mengui.
Non, je n'ai pas forcément d'idée sur la question. Moi, j'ai des questions à vous poser. Je ne suis pas un spécialiste des déchets.
Mais nous vous écoutons.
La durée de l'autorisation d'exploiter,
2018.
Elle porte sur 2018.
Jusqu'à 2018, oui.
Et c'est dans le cadre des activités actuelles de Delta Déchets. Ce ne sont pas des activités différentes.
Ce sont des activités actuelles. En fait, il y avait un certain tonnage de déchets traités à respecter. Delta Déchets a dépassé ce tonnage. Pour faire simple, et donc ils sont obligés de mettre en place un dossier de régularisation. En fait, nous sommes dans un dossier de régularisation par rapport à l'autorisation d'exploiter et du tonnage à traiter. Madame Thibault.
Oui, mais n'importe comment, on sait très bien que l'entreprise Delta Déchets est amenée, finalement, je crois que la date est fixée en 2018.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure.
Voilà, de revoir sa position en termes d'exploitation et de stockage des déchets. Donc on sait qu'à terme, c'est une entreprise qui est saturée et qui risque de déménager par rapport à la limite, je dirais, de surface exploitable de ces déchets. Donc 2018 sera la date butoir pour le déménagement l'arrêt de cette installation de stockage et le déplacement. On l'avait déjà évoqué il y a 2 ou 3 ans. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Très bien. Y a-t-il d'autres observations, d'autres avis ? Donc, qui est contre l'avis défavorable ? Vous vouliez rajouter quelque chose ? Je précise. Je propose un avis défavorable sur une question de principe. Donc, qui est contre l'avis défavorable ? D'accord. Madame Thibault et Monsieur Mengui. Qui s'abstient ? Monsieur Arcuzet. Qui est pour ? Le reste du conseil municipal. Merci. Alors, nous abordons les rapports d'activité, les différents rapports d'activité. Le RAO, donc ça va être rapporté par Monsieur Auriac, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient. En ce qui concerne les rapports 15 et 16, nous allons grouper le vote et les débats. Et si vous avez des questions, bien entendu, sur les rapports 15 et 16, nous y répondrons. Je passe la parole à Monsieur Aurillac.
Mais comme l'a précisé Monsieur le maire, donc c'est juste approuver le rapport d'activité. Donc ces rapports sont en bas affichés en mairie. Donc on va essayer de gagner du temps pour ce soir. Et si ça vous dérange pas, si vous êtes d'accord, qu'on passe au vote directement. Donc c'est une obligation. Il n'y a même pas de vote puisque c'est juste un rapport d'activité. Donc c'est une obligation annuelle. Après, si vous voyez, si vous avez des questions particulières, sinon on va gagner du temps.
Merci. Il y a le rapport d'activité de la communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence. Y a-t-il des questions, des remarques ? Je vais vous épargner la lecture fastidieuse de données qui sont connues par tous. Très bien. Service de collecte et d'élimination des déchets, donc effectué par la CCAOP, rapport annuel. Des questions, des remarques. Communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence, approbation des rapports annuels 2014 du délégataire de l'assainissement et sur le prix et la qualité des services de l'assainissement. Très bien. Et je passe au dernier dossier, numéro 20, motion de soutien à l'Association des maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'État. Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économie de 50 milliards d'euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'État sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Dans ce contexte, le bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, poursuivre une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et la population sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et leurs entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents, communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l'investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources. En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leur levier d'action, rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'État, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale. La commune de Camaret-sur-Aigues rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les intercommunalités, sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société. Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien vivre ensemble. Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire. Enfin, elle joue un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale, et va fragiliser la reprise, pourtant indispensable au redressement des comptes publics. En outre, la commune de Camaret-sur-Aigues estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. C'est pour toutes ces raisons que la commune de Camaret-sur-Aigle soutient la demande de l'AMF que, pour sauvegarder l'investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. En complément, il est demandé l'amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée, raccourcissement des délais, élargissement de l'assiette, simplification des procédures, la récupération des frais de gestion perçus par l'État sur le produit de la collecte de nos impôts locaux, frais de gestion et de recouvrement, l'arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux, la mise en place d'un véritable fonds territorial d'équipement pour soutenir rapidement l'investissement du bloc communal. Il est donc demandé au Conseil municipal d'accepter d'apporter le soutien de la commune de Camaret-sur-Aigle à l'action menée par l'Association des maires de France. Voilà, je pense que tout est dit dans cette motion. Pour ma part, je n'ai pas grand-chose à y rajouter, mais peut-être avez-vous des remarques ou des questions. Alors, s'il n'y en a pas, je mets aux voix qui est contre la motion, qui s'abstient, adoptée à l'unanimité, et c'est une excellente chose. J'avais une question orale qui m'avait été posée par Maître Montagnier, donc je t'écoute, Jean-Paul. Si tu as le micro.
Pour attirer l'attention sur ce qui risque de se passer à la poste de Camaret. Il y a quand même des bruits qui sont inquiétants où on supprimerait un poste de personne l'après-midi, le samedi matin. Voilà. On aurait deux personnes le matin, une personne l'après-midi, et le samedi matin, qu'une seule personne. Également dans ce projet, Sérignan fermerait plus tôt, vers 15h, et les gens de Sérignan, bien sûr, viendraient à Camaret où il n'y aurait qu'une personne. De toute façon, le projet d'une personne le samedi, quand on y va, c'est pratiquement impossible. Donc, il y a eu une élucubration qui est partie, qui semblerait que c'est reporté. Donc, j'aimerais quand même que la mairie et également les Camarétois se mobilisent sur ce projet. Le personnel est inquiet parce qu'on a un personnel à la poste qui est magnifique, je veux dire, qui fait ce qu'il peut. Voilà. Très souvent, malheureusement, ils sont agressés alors qu'ils n'y sont absolument pour rien, parce que c'est d'en haut que les choses vont mal. Je crois qu'aujourd'hui, il faudra leur apporter le soutien des Camarétois de la mairie. Voilà, donc c'est un projet qui existe, il est mis en suspens momentanément, mais qui va revenir d'ici un an. Voilà.
Bien,
c'est au courant de ce projet.
Tout à fait.
Et je tenais quand même à ce qu'on en parle ici en conseil municipal et qu'on commence à lancer quelque chose.
Tout à fait. C'est un sujet extrêmement important pour la commune. Ta proposition est tout à fait recevable. J'y souscris pleinement. Tant je suis attaché au maintien de ce service public local. D'ailleurs, sous la précédente mandature, j'avais signé une pétition pour défendre le service public local de la Poste. Donc je suis toujours très très attaché au maintien de ce service, en particulier à Camaret. Et je pense que le service ne doit absolument pas être modifié en termes d'effectifs.
D'ailleurs, on ne dépendrait plus de Jonquière, mais d'Orange.
En plus. Tout à fait. Tout à fait. Donc nous mettrons en œuvre tous les moyens, avec, je l'espère, votre soutien unanime, pour que la Poste renonce à ce funeste projet. Merci. Alors, je vous... Pardon. Madame Thibault.
Oui, je voulais simplement dire que par rapport à cette rumeur, parce que j'espère que ce n'est qu'une rumeur, pour avoir défendu...
Prenez le micro, s'il vous plaît.
Qui inquiète les personnes de la Poste, je les tiens, les personnes de la Poste.
Bien sûr, ben oui, normal. J'espère que ce n'est qu'une rumeur, parce que ce que je trouve étonnant, on parle de rumeur, alors que, à ce titre-là, dans le cadre de la modification d'ouverture, enfin d'horaire de la Poste ou de personnel, il faut rappeler qu'il y a des conventions qui ont été signées entre l'Association des maires de France et la Poste qui obligent la Poste à prendre attache auprès du maire pour demander un avis. Alors, je trouve ça étonnant que vous, enfin, à moins que vous ayez été contacté, mais normalement, vous devez être contacté pour qu'on vous fasse part des éventuelles modifications d'horaire ou de baisse de personnel. Et c'est à ce titre-là que nous pouvons intervenir, nous, conseil municipal. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez des nouvelles très bientôt concernant ces rumeurs.
Alors, je vous précise...
La rumeur, il faut toujours s'en méfier, quand même.
Je vous précise que, pour l'instant, je n'ai pas été officiellement contacté, et je m'en réjouis, puisque la décision et la prise de décision a été reportée. Néanmoins, mieux vaut prévenir que guérir, et c'est tellement important pour la commune que je pense qu'il faut qu'on se bouge, excusez-moi l'expression, tout de suite, le plus tôt possible. Donc je vous tiendrai au courant des réponses que j'aurai obtenues, bien entendu. Donc, je vous indique que le prochain conseil municipal aura lieu le 22 octobre. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre participation.